Monsieur le maréchal, il ne me faudra que quelques milliers de morts pour m'asseoir en vainqueur à la table des négociations. Confidence faite par Mussolini au maréchal Pietro Badoglio le 26 mai 1940.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre dernière chronique, nous avions essayé de présenter de manière succincte le projet totalitaire du fascisme italien. La chronique d'aujourd'hui vous propose de réfléchir sur la politique internationale de l'Italie fasciste jusque à l'entrée en guerre de l'Italie dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Lors des années 20, Mussolini veut une politique de présence internationale, mais sait se montrer assez prudent. Politique de présence, par exemple, lorsque il fait occuper en août 1923, suite à des incidents de frontières avec les Grecs lors du tracé de la frontière entre l'Albanie et la Grèce, où des officiers italiens ont été tués, occupation qui permet de faire une pression et d'obtenir du gouvernement grec une somme d'argent pour dédommager des victimes qui ont été donc tuées à ce moment-là. De même, il obtient un règlement de l'affaire de Fiume, ville qui était disputée entre la Yougoslavie et l'Italie, grâce au traité du 27 janvier 1924, puisque l'Italie récupère la ville. De même, en août 1926, il obtient un quasi-protectorat de l'Italie sur l'Albanie. Il soutient aussi les positions révisionnistes de la Hongrie ou de l'Allemagne en matière de réarmement. Mais en même temps, il ne veut pas inquiéter trop le concert des nations et finalement, il accepte par exemple que l'Italie signe le traité de Locarno le 16 octobre 1925 qui permet de délimiter officiellement les frontières de l'ouest de l'Allemagne et en particulier avec la France. De même que le 27 août 1928, il accepte que l'Italie adhère au pacte Briand-Kellogg, du nom du ministre français des Affaires étrangères et du secrétaire d'État américain, qui proscrit la guerre. Il n'y croit pas. Il ne pense pas que la paix soit une période qui doive durer longtemps. Mais il est de bon ton d'accepter quelque peu l'esprit de Genève, l'esprit de la Société des Nations, d'où cette adhésion au pacte Briand-Kellogg. D'autre part, lorsque Hitler arrive à la chancellerie le 30 janvier 1933, ne croyons pas que l'Italie fasciste soit totalement enthousiasmée. Certes, la presse accueille de manière plutôt bienveillante cette arrivée au pouvoir, mais enfin, Mussolini se méfie du discours pan-germaniste, du discours très nationaliste du nazisme. En particulier, il s'inquiète par exemple du fait que l'Allemagne puisse annexer l'Autriche au travers de ce qu'on appelle l'Anschluss. Et lorsque les nazis autrichiens, appuyés par Berlin, tenteront de prendre le pouvoir à Vienne en juillet 1934, Mussolini sera un opposant de première. D'où le fait qu'il va continuer à garder des contacts relativement étroits avec les alliés de la Grande Guerre, Grande-Bretagne et France, au travers du pacte à quatre du 7 juin 1933, et également avec les accords italo-anglo-français lors de la conférence de Strezza en avril 1935. Mais il est indéniable qu'il y a un tournant dans la politique étrangère de Mussolini, c'est la question de la guerre d'Éthiopie. L'Éthiopie est un vieux rêve italien. En 1896, une expédition coloniale avait échoué très gravement, puisque 8000 soldats italiens avaient été tués lors de la bataille d'Adoua. Mussolini souhaite reprendre cette ambition en Éthiopie afin de faire de l'Italie la principale puissance en Afrique orientale. Et prétextant d'un accrochage entre soldats italiens et éthiopiens à la frontière somalo-éthiopienne en décembre 1934, il annonce qu'il veut obtenir des réparations et en fait, il prépare une véritable guerre qui sera déclenchée en octobre 1935. Ne rentrons pas dans le détail des événements militaires, mais les moyens sont considérables puisque le corps expéditionnaire italien ira jusqu'à 500 000 hommes et 350 avions. Malgré une résistance très courageuse, les troupes italiennes peuvent rentrer à Addis Abeba le 6 mai 1936 et, le 9 mai, de manière très solennelle, Mussolini va proclamer depuis le balcon du palais de Venise l'Empire, le retour de l'Empire sur les collines fatales de Rome. Je vous propose d'écouter quelques dizaines de secondes de ce discours mussolinien du 9 mai 1936.
La proclamazione dell'impero.
Un grande evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista.
Cette victoire en Éthiopie marque sans doute le zénith de la popularité de Mussolini et du maximum de consensus autour du régime. Mais les conséquences de la guerre d'Éthiopie sont sur le plan international extrêmement importantes. D'abord, elles ont montré la division entre les alliés de la Grande Guerre, l'Italie d'une part, la Grande-Bretagne et la France de l'autre, celle-ci votant les sanctions décidées par la SDN le 11 octobre 1935. De même, elle montre l'incapacité de la société des nations à régler le conflit. Après l'affaire de Mandchourie en 1931, cela confirme la faiblesse de la SDN, que d'ailleurs l'Italie va quitter le 7 décembre 1937. D'autre part, la politique de l'Allemagne, restant neutre, profite finalement de cette dégradation, car l'Allemagne nazie reconnaît la conquête de l'Éthiopie, mais également profite de la situation pour réoccuper la Rhénanie en mars 1936. À partir de là, il est indéniable que progressivement, l'Italie va se rapprocher de Berlin. Mais avec encore des hésitations. Si l'Italie proclame effectivement et affirme des revendications vis-à-vis de la France, Nice, la Corse, Tunisie, Djibouti, l'Italie reste encore assez prudente vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et ainsi, il y a des négociations qui vont mener, le 16 avril 1938, à la reconnaissance de l'Empire de la part de Londres. Et pour la Grande-Bretagne, Mussolini semble pouvoir avoir une influence modératrice sur Hitler. C'est en tout cas le sentiment que Chamberlain a eu lors de la conférence de Munich en septembre 1938. D'où le voyage qu'il fait à Rome, les 10 et 11 janvier 1939. C'est une illusion. Mussolini n'a pas les moyens de véritablement ralentir et freiner l'ambition hitlérienne, mais c'est une illusion qui finira progressivement par disparaître à partir de la proclamation de l'axe Rome-Berlin et surtout de la signature d'un traité militaire entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Traité signé le 22 mai 1939 à Berlin et qui est une vraie alliance militaire. Mais cette guerre qui se profile, à vrai dire, Mussolini l'espère pour les années 42-43. Et ce qui se passe, c'est que véritablement, on a le sentiment que Mussolini est dépassé par le dynamisme nazi. Pourquoi ? Parce que la crise polonaise qui éclate au printemps 1939 et qui va prendre une ampleur considérable à partir du mois d'août de la même année, eh bien, est quelque chose d'inattendu. Hitler et les dirigeants nazis avaient promis à l'Italie qu'il n'y aurait pas de guerre avant 4 ou 5 ans. Or, la guerre, elle est finalement aux portes de l'Italie. Mussolini décide, après beaucoup d'hésitation, de proclamer la non-belligérance. Il reste allié à l'Allemagne, mais il ne rentre pas dans la guerre au moment de l'agression allemande de la Pologne. Pendant plusieurs mois, il ronge son frein, il attend le moment favorable, il espère finalement avoir la possibilité de trouver le moment pour que il puisse obtenir, et je reprends là ses propres paroles, sa part de butin. Aussi, il est humilié par le fait de ne pouvoir véritablement encore entrer dans la guerre. Il rencontre Hitler le 18 mars 1940, impressionné par les succès obtenus par les Allemands en Pologne, en Norvège, sur le front de l'Ouest, ensuite en mai-juin 40. Les succès considérables remportés par les armées allemandes en Belgique et en France vont pousser progressivement le Duce à vouloir véritablement entrer dans la guerre. Et le 10 juin 1940, pensant que la guerre serait finalement relativement courte et pourrait être favorable à l'Italie, sans trop de dommages, il va annoncer au peuple italien, depuis le balcon du palais de Venise, qu'il a déclaré la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. À vrai dire, cette déclaration de guerre engage l'avenir du régime.